Salut à vous. Content d'être avec vous pour ce magnifique sabbat. Un autre cadeau hebdomadaire où on peut laisser nos choses de côté, rêver des belles choses qui viennent et se présenter devant notre grand Dieu qui nous aime, on va le voir aujourd'hui, et qui veut qu'on arrive à réussir le but pour lequel il nous a créés. Vous savez, vous n'avez pas été appelé par accident. Vous n'avez pas non plus été appelé par hasard, absolument pas. Ce qui est frappant dans votre appel et dans le fait que vous soyez là à l'Église de Dieu, ici aujourd'hui ou ailleurs à travers le monde, c'est qu'il y a eu une décision personnelle qui a été prise par le gouverneur de l'univers en ce qui vous concerne personnellement, individuellement, un choix du gouverneur de l'univers. Ça, c'était en vue d'accomplir son œuvre actuellement, parce qu'on est appelé pour soutenir l'œuvre par nos prières, par nos exemples, les dîmes, les offrandes, notre façon de vivre, d'approfondir sa loi. En vue d'accomplir son œuvre maintenant, bien sûr, mais dans très peu de temps, de poursuivre cette œuvre-là, qui va déboucher bientôt dans le monde de demain avec le retour du Christ. Pour le reste de l'humanité. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Psaume 65. Psaume 65, un passage tellement encourageant. Psaume 65, et nous allons lire les versets 5 et 6. Regardez ce que Dieu dit, et là vous pourriez mettre votre nom ici, en parlant de vous, qu'il a appelé individuellement, par une décision que lui a prise. « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. » C'est une bénédiction de venir aujourd'hui en sa présence, mais c'est une bénédiction d'être là, de le connaître de plus en plus, mais c'est parce qu'il nous admet en sa présence, ça nous est donné. Et il va y ajouter encore autre chose. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasions du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Pourquoi ça nous réjouit autant? Parce qu'en faisant ça, il nous montre le vrai but de l'existence humaine. Ce que nous ignorions avant qu'il nous appelle. Et regardez le verset 6. « Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. » Et je ne sais pas si vous vous êtes arrêté souvent là-dessus, mais le fait qu'il vous ait appelé, c'est un miracle. C'est une intervention directe de lui. C'est un miracle, un grand prodige qu'il a fait dans votre vie personnelle. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, parce que ça, c'est le but qu'il a pour nous, de nous donner la vie éternelle. Espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Et il y a beaucoup dans ce dernier passage parce que ça nous montre que le reste de l'humanité est appelé aussi à quelque chose de formidable, mais pas pour l'instant. Mais ils font partie du grand plan. Ils seront appelés. Ils auront un jour la chance de connaître le vrai Dieu. Mais pour l'instant, ils ne connaissent pas le vrai but de la vie, ni le bonheur qui les attend. Alors, ça nous amène à ce point, c'est que Dieu porte une attention constante à tous les aspects de la vie de chacun de ses appelés. J'ai pesé chaque mot, là. Dieu porte une attention constante à la vie de chacun de ses appelés. Dans un monde qui est actuellement de plus en plus bouleversé. Et ça, c'est notre fondement solide sur lequel on peut se baser. Allez à Psaume, chapitre 11, un peu auparavant. Psaume chapitre 11, et nous allons lire le verset 3. La société actuelle dont je vous parlais, quand les fondements sont renversés. Et dans le sens originel ici du texte, c'est quand les principes moraux de la société disparaissent, bien sûr, ça devient un monde confus et complètement désordonné et malheureux comme aujourd'hui. Quand les fondements sont renversés, quand les principes moraux de la société disparaissent, le juste ou l'appelé, que ferait-il? Mais il n'est pas seul, l'appelé. L'Éternel est dans son Saint-Temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Et c'est sur ceux qu'il considère comme justes, ceux qu'il appelle, même s'ils ne sont pas encore parfaits, s'ils sont en marche, Dieu les considère comme justes. Et il nous dit ici que c'est sur eux que ses yeux et son cœur sont tournés en ce moment. Bien sûr, il nous teste, il nous met à l'épreuve, mais il nous encourage aussi. Et dans tout ça, il nous prépare à aider les autres dans le monde de demain, à gouverner un monde qui sera totalement nouveau. Et en faisant ce travail-là actuellement avec vous et avec moi, il voit le cœur de chacun de nous. Au point de départ, quand il nous a appelés, et à chaque jour de notre vie jusqu'à la fin. Et on est parti de loin. La Bible nous dit clairement que tous les êtres humains ont péché et que tous les êtres humains, au point de départ, sont des ennemis de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, on est parti de loin. Et il a fallu qu'il nous aime beaucoup et de loin pour nous appeler dans cet état-là. Mais lui voyait le produit fini qu'il veut faire avec chacun de ses appelés. Et vous allez voir, j'espère que à partir du sermon d'aujourd'hui, vous allez voir à quel point Dieu a un intérêt chaleureux, aimant, constant envers chacun de ceux qu'il appelle maintenant. À quel point vous êtes précieux à ses yeux. Même si vous et moi, nous partons d'aussi loin d'être des ennemis de Dieu, pour développer son caractère et nous préparer à régner avec le Christ, Dieu, lui, voit le produit fini et il nous aime déjà beaucoup, il nous chérit et il est patient envers nous dans le cheminement qu'on a à faire. Quand Dieu appelle quelqu'un, cette personne-là devient l'ouvrage de ses mains. L'ouvrage de ses mains. Et ça, c'est le titre de mon message aujourd'hui. Et ça donne un peu l'image de son implication personnelle dans votre vie et dans ma vie. Reportez-vous à Éphésiens au chapitre 2, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 2. Regardez ce que nous dit le verset 10 ici. Car nous sommes son ouvrage. On part de très loin, mais nous sommes son ouvrage, il est en train de nous sculpter, de nous façonner. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et ces bonnes œuvres-là, c'est la façon de vivre selon ses lois maintenant, qu'on s'applique à faire. Et vivant ainsi, avec l'aide de Dieu, Dieu crée en nous un être nouveau totalement différent. Reportez-vous juste un peu avant au verset 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, ou que vous êtes en train d'être sauvés, en train d'aller vers la vie éternelle. La grâce, ça veut dire que c'est un don. Ça aussi, ça nous a été donné, comme la vie, comme le fait d'être appelé. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés ou en train d'être sauvés, par le moyen de la foi. Et ça aussi, ça nous est donné. On va voir avec le message aujourd'hui que tout nous vient de lui, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ça aussi, on doit insister auprès de Dieu pour nous donner davantage de foi, de la foi du Christ. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. On n'a pas à se glorifier des bonnes choses qu'on réussit à faire. Au contraire, on doit lui dire merci de nous aider à les faire. Et ça, ça lui plaît. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ, comme j'ai mentionné tantôt. Allez un petit peu plus loin maintenant, au verset 19. Lorsqu'il nous appelle, il nous place au sein d'un petit troupeau qu'il appelle sa maison, ou on va dire sa maisonnée. Verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. » Ce qu'on était avant, on était étrangers à Dieu, à sa façon de penser et à la vraie façon de vivre. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Il y a d'autres gens comme vous qui, parce qu'ils ont été appelés et qu'ils ont commencé à mettre en pratique les lois de Dieu, deviennent des sanctifiés, des gens mis à part pour un but précis. C'est ça, être des saints. Mais des gens de la maison de Dieu. C'est quelque chose, ça. Gens de la maison de Dieu ou de la famille de Dieu, de l'Église de Dieu. On réalise pas tout le temps à quel point ce phénomène-là est grand. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Tout ce que les prophètes ont écrit, annoncé, tout ce que les apôtres ont écrit, annoncé, nous nous fondons là-dessus parce que c'est le fondement de la vérité. Jésus-Christ est en lui-même la pierre angulaire, la grande pierre qui soutient tout l'édifice. Et il se révèle à nous. La page précédente, avant, allez à Éphésiens chapitre 1, le verset 9 à 12. Il se révèle à nous au fur et à mesure qu'on vit selon ses lois. Et plus nous faisons sa volonté, plus il nous donne de force pour aller plus loin. Verset 9, Éphésiens 1. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Et vous savez très bien comme moi qu'avant que Dieu nous appelle, avant qu'il se révèle à nous, nous ne connaissions pas la vérité. C'était un mystère. Et dans plusieurs des cas, en ce qui nous concerne, on ne cherchait même pas la vérité. C'est vrai, on ne cherchait même pas la vérité dans certains cas. Et il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Et le temps d'appeler maintenant un petit troupeau, il est venu, il est en marche, vers d'autres étapes. De réunir toutes choses en Jésus-Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ça, c'est à venir. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan. C'est le plan qui avait été déterminé d'avance. De celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Voyez-vous, tout ça, c'est à sa gloire. Nous, là-dedans, on n'a pas de gloriole ou on n'a pas à se féliciter de quoi que ce soit. On a par contre pas mal de merci à dire. Et quand on vient à bout de vaincre une faiblesse, on n'a pas à s'en vanter, mais on a à dire des gros merci. Des gros merci. Parce que tout ça vient de lui. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. C'est-à-dire que nous, en tant que prémisse, ou nous les premiers qui avons espéré en Jésus-Christ. Oui, les premiers, parce que le reste de l'humanité n'espère pas encore en Jésus-Christ. Même si plusieurs en parlent beaucoup, mais sans le connaître. Voyez-vous, il a un but précis pour chacun des appelés, un but de gloire pour vous personnellement. Mais en bout de ligne, c'est pas dans le fond, si on y pense, une gloire pour nous-mêmes. C'est que nous serons glorifiés pour qu'il soit glorifié. Tout doit lui revenir. On n'aura pas de mérite de rien. C'est le choix qu'on a à faire au point de départ et la supplication qu'on doit continuer d'avoir envers lui qui nous permet d'avancer par sa force. On lui doit toute chose, absolument. Allez à Ésaïe chapitre 61, un livre que j'aime beaucoup Ésaïe, chapitre 61. Ici, c'est le Christ qui parle. Le Christ qui a été inspiré par le gouverneur de l'univers et il en parle clairement de ce que je suis en train de vous mentionner. Ésaïe 61, le verset 1, c'est le Christ qui parle. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Autrement dit, c'est le Christ qui dit, l'Esprit du gouverneur de l'univers est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Et ici, c'est l'annonce de sa première venue lorsqu'il est venu annoncer la bonne nouvelle du monde à venir. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et beaucoup d'entre nous avaient cœur brisé de toutes sortes de façons. Des enfances parfois épouvantables ou des épreuves énormes. Mais lorsque le Christ travaille avec nous, il accomplit ce qu'il mentionne ici. Il guérit graduellement les cœurs brisés pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et nous étions captifs de nos mauvaises façons de faire et captifs en même temps de celui qui est le petit Dieu de ce siècle, qui travaille de plus en plus fort. Regardez le verset 3 du même chapitre. Et là, vous allez voir déjà un aperçu de comment Dieu vous voit personnellement. Et j'aime à donner ce message-là aujourd'hui, et j'espère qu'il sera un grand encouragement pour vous de voir comment Dieu vous perçoit, même si vous n'êtes pas encore parfait. Lui voit le produit fini à l'autre bout. Et s'il n'en tenait qu'à lui, ce serait assurément réussi. Mais nous avons une part à faire là-dedans. Regardez le verset 3. Qu'est-ce que le Christ dit? « Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. » Un diadème, ce sont des joyaux, une couronne de perles précieuses ou de pierres précieuses. Si vous voulez. Ça, c'est à partir de la terre que nous sommes, à partir de la cendre, de faire de nos cendres une couronne, un diadème. On est libre de choisir. Il nous a donné la liberté. Mais dès qu'on exerce notre liberté dans le sens qu'il veut que nous fassions, il nous bénit et lui voit le produit fini. Allez dans Zacharie, chapitre 9. Zacharie, chapitre 9. On va voir le même principe expliqué de façon très claire ici, Zacharie chapitre 9 et le verset 16. Et il parle ici d'un temps futur qui n'est pas si loin, où il va nous transformer en êtres spirituels. L'Éternel, leur Dieu, en voulant dire notre Dieu, les sauvera ce jour-là, le jour où il va vous donner la vie éternelle, le salut. L'Éternel, leur Dieu, les sauvera ce jour-là. Comme le troupeau de son peuple, le petit troupeau, les prémices dont vous faites partie. Car, et c'est là-dessus que je veux attirer votre attention pour vous montrer comment Dieu vous perçoit, même si vous n'êtes pas parfait, alors que vous êtes en train de lutter avec son aide pour aller vers la perfection. Car ils sont les pierres d'un diadème qui brilleront dans son pays, car ils sont les pierres d'un diadème qui brilleront dans son pays. Et c'est intéressant parce que l'apôtre Paul rappelle ce même rôle du Christ par rapport à notre transformation. Allez dans Éphésiens, le chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5. On va lire à partir du verset 25 à 27. Et ça nous montre quel rôle le Christ joue par rapport à chacun des appelés en ce moment, chacun de nous, pour nous rendre parfaits, pour que nous devenions ces pierres faisant partie du diadème dont il est question. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. et s'est lui-même livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Le chemin à suivre, en mettant en pratique les lois de Dieu. Mais sainte et irréprochable, c'est vers ça qu'il nous dirige. Et jour après jour, malgré parfois les difficultés, les épreuves, ou les pertes de victoire, malgré les échecs, il travaille avec nous et il nous amène vers le moment où nous serons irréprochables. Où nous serons capables de ne plus pécher. Pas incapables de pécher, ça c'est une autre chose. Mais où nous serons rendus capables de ne plus pécher, comme le Christ est capable de ne jamais se tromper. On parle d'une dimension extraordinaire ici. Alors, il va nous rendre parfaits si nous restons attachés à lui et continuons à appliquer notre cœur à faire sa volonté. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Et son ouvrage, c'est un ouvrage de délivrance et de transformation totale. Et ça se fait par une relation personnelle, chaleureuse, sainte, affectueuse, avec notre Créateur. Et ça, c'est important. Et dès que Dieu nous appelle, et je me rappelle, il y a longtemps que Dieu nous a appelés, mon épouse et moi, mais dès que Dieu nous appelle, si nous répondons, ce qu'on a fait, malgré le prix qu'on a eu à payer aussi, si nous répondons favorablement, il devient dès lors notre appui, un appui infaillible. Et nous ne sommes plus seuls. Et avec ça, on réalise que nous étions seuls avant. Alors que quand il est dans nos vies, présent, et que nous développons une relation chaleureuse, simple, encourageante avec lui, on le voit intervenir de différentes façons, selon son choix et son temps, mais on n'est plus seul. On peut compter sur toute la puissance de l'univers. Nous ne sommes plus seuls ni séparés de Dieu. Parce qu'avant qu'il nous appelle, nous étions séparés de Dieu. Dans le fond, si on y pense, on était au même point qu'Adam et Ève, qui s'étaient détournés de Dieu. Exactement. Il y avait un mur énorme, infranchissable, entre Dieu et nous. Et c'est pour ça que la vérité était un mystère pour nous. Il nous l'a révélé en cours de route. Mais, étant des appelés, nous sommes maintenant, et il faut développer ce lien-là, nous sommes maintenant en lien direct avec lui. Et de ce fait, il s'occupe de nous avec soin, comme le Père parfait qu'il est. Il y a des gens dans l'Église qui ont eu le bonheur d'avoir des pères aimants, dévoués, qui prenaient soin de leur famille, de leur épouse et de leurs enfants. D'autres ont connu des milieux extrêmement difficiles. Certains ont été rejetés, ou maltraités, ou même abusés. Mais une fois qu'on est appelé, on découvre maintenant une autre dimension parce qu'on est en relation directe avec celui qui est le Père parfait et qui veut nous guérir de nos blessures dont on a parlé tantôt dans Ésaïe 61 et qui veut nous amener à être encouragés et qui lui voit le jour où ces blessures qu'on a eues seront complètement guéries, complètement disparues. Et où on sera à notre tour capable d'aider d'autres êtres, comme lui le fait avec nous maintenant. Psaume 46, s'il vous plaît. Psaume chapitre 46. Et nous allons lire les versets 2 à 4. Vous allez voir comment c'est encourageant, dans le sens que je vous parle. Dieu voit le produit fini en vous et Dieu voit le chemin que vous avez à faire et il est prêt à vous aider tout le long de la route, chaque jour, chaque instant. Verset 2 du psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un refuge et un appui. Lorsqu'il y a un grand danger, hein, on cherche un lieu où se cacher, où s'éloigner du danger. Mais il nous dit ici que lui est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quelle que soit cette détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Et je vous dirais que ce principe-là s'applique particulièrement à l'époque où nous vivons, où toute la planète actuellement est totalement bouleversée, où les humains ont perdu tout sens commun, normal. Ça va de plus en plus dans un sens de décadence, où on n'a plus de ligne directrice, on n'a plus de principes moraux, comme je mentionnais tantôt. C'est pourquoi nous, qui connaissons le vrai Dieu, nous pouvons, si nous faisons sa volonté au mieux, on peut être sans crainte quand la terre est bouleversée. On sait que c'était annoncé, on sait comment ça va finir, et on sait comment Dieu va prendre soin des siens d'ici la fin. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée comme aujourd'hui, et quand les montagnes chancellent, quand les gouvernements chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, quand les populations se soulèvent, comme on voit de plus en plus, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Quand vous avez tous ces émeutes, tous ces soulèvements populaires qui font trembler les gouvernements, Dieu dit, « Je suis la source de votre réconfort. Je suis votre refuge et votre appui. » Psaume 37, juste un peu avant, une autre belle promesse pour nous. Psaume 37, regardez le verset 5, très clair, qui va exactement dans le même sens et qui vous montre à quel point Dieu vous considère précieux, pas parce que vous êtes ou moi précieux au point de départ, parce qu'il veut faire avec vous et parce qu'il vous considère qu'il vous aime. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel, verset 5, quel que soit ton sort, quelle que soit la circonstance que vous avez à vivre, l'épreuve que vous avez à rencontrer, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Et ça, il faut y croire. Même si quand on met notre confiance en lui, devant une situation épouvantable, il n'y a pas de changement immédiat. C'est là qu'il veut voir notre ténacité et notre confiance à lui aussi. Attendre sa réponse. Faire ce qu'on a à faire pour améliorer ce qu'on peut améliorer, oui. Mais lorsqu'on lui a donné notre problème, mettre notre confiance en lui et même lui dire, « Père, merci de ce que tu vas faire pour moi au moment où toi, tu vas juger que tu dois intervenir. Entre-temps, donne-moi la force, moi, de faire, dès que je vois une chose à changer, de faire les choses comme elles doivent être faites. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, alors il agira. » Promesse infaillible. Vous savez, la divinité, on le voit par la Bible, se compose seulement de deux êtres, de toute éternité. Et ils agissent ensemble. Ils ont tout fait ensemble. Ils agissent ensemble de concert en votre faveur, personnellement. Parce que tout est individualisé dans l'œuvre de Dieu lorsqu'on parle des appelés et des choisis. Alors, les deux travaillent en harmonie en votre faveur et sont là à votre disposition pour vous aider, comme pour m'aider aussi. Jean 5. Jean, chapitre 5. Des passages tellement encourageants. C'est le Christ qui parle ici. Jean 5, verset 17. « Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Et ça, c'est intéressant. Parfois, lorsque j'ai des choses à faire qui sont pesantes et tout ça, des fois, je lui rappelle ce passage-là. Et je me dis, bon, le Christ a dit, « Moi aussi j'agis, Père, aide-moi. » Alors, Le Christ dit ici, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Et ça vous montre, en même temps, qu'ils interviennent en harmonie parfaite l'un avec l'autre. Verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ça, les premières fois qu'on lit ce passage-là ou qu'on voit ce principe-là, ça nous étonne. Parce qu'on dit, bon, c'était le Fils de Dieu. Oui, mais le Christ, dans la chair humaine ici, a accepté cette position où il ne pouvait rien faire de lui-même, où il devait compter entièrement sur son Père. Est-ce qu'on ne doit pas apprendre à faire la même chose? Recommande ton sort à l'Éternel, alors il agira. Le Christ nous a donné cet exemple parfait. Lui qui comptait sur Dieu, qui dit ici, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et le soin que le Père prend envers vous, le Christ prend le même soin. C'est un travail conjoint. » Verset 30. Même chapitre, Jean 5, verset 30. Regardez ce que le Christ mentionne encore. « Je ne puis rien faire de moi-même. » Ça ne peut pas être plus clair. « D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Voyez-vous, la relation que le Christ a développée avec son Père lorsqu'il était dans la chair humaine, dans cette position de faiblesse, pour ainsi dire, alors qu'il comptait entièrement sur son Père. Mais il dit, ce que je veux faire dans ma situation, c'est de faire ta volonté. Et c'est pour ça que lorsque Dieu nous montre que nous avons des choses à changer, c'est sa volonté qu'on ne doit pas tarder, qu'on doit passer à l'action, pour mettre en pratique ce qu'il nous a révélé. Il nous montre le chemin à suivre. Alors ici, c'est la clé, dans le fond, que je viens de vous donner. Jésus est notre exemple, notre modèle en tout. Et je reviens à ça, il faut être conscient de sa puissance. Il faut être conscient de sa puissance. Il est grand. Il est beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant qu'on pourra jamais imaginer. Il est au-delà de tout ça. Il faut être conscient de sa puissance, qui est constamment en action. Et il faut s'habituer à s'appuyer régulièrement et chaque jour sur cette grande puissance, de compter dessus. Chaque jour, c'est ce que la Bible appelle marcher avec Dieu, être proche de lui, le suivre, lui demander son aide, et il la donne. Il dit, demandez et vous recevrez. Comment de fois je n'ai pas reçu ce que j'avais besoin parce que je n'ai pas demandé? Parce que je n'ai pas pris le temps d'exprimer le besoin en détail à Dieu et de lui dire, donne-moi de régler ce problème-là pour que je puisse te servir mieux. À ta gloire. Alors, il faut nous appliquer à agir selon sa volonté. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ça, c'est votre part et c'est ma part qu'on a à faire. Allez dans 2 Pierre. Le deuxième livre de l'apôtre Pierre, s'il vous plaît. Ici, l'apôtre Pierre explique de façon claire et encourageante le principe que je viens de vous mentionner. 2 Pierre, chapitre 1, regardez le verset 3. Il ne nous laisse jamais tomber et il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour passer à travers toutes les situations. Vous savez, devant un problème qu'on soumet à Dieu, des fois Dieu va régler le problème, bien sûr en son temps. Mais parfois, il ne réglera pas le problème, il va laisser le problème là. Mais il va nous donner la force de passer à travers la situation en question. Parce que lui sait ce qui est le mieux pour vous ou pour moi à ce moment-là, avec ce que lui a à l'esprit pour nous préparer à gouverner dans le monde de demain, pour être capable d'aider les nations, de rebâtir le monde, de guérir les gens, de les encourager. Alors, il dit ici, 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, « Sa divine puissance nous a donné, ça vient encore de Dieu, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » La piété, c'est la façon de vivre selon Dieu. Il dit, « Il nous a donné tout ça, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Comment? Au moyen de la connaissance. Eh oui, quand il nous a appelés, il nous a fait connaître son plan et notre place dans ce plan. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Il nous a révélé qui il est. Celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alors voyez-vous, tout est là pour que nous réussissions. Il n'y a pas de raison pour laquelle nous ne pourrions pas atteindre le but qu'il nous a fixé. Lisons maintenant le verset 10 et 11, un peu plus loin. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus, alors on a une part à faire, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Ici, il y a le mot « vocation » et il y a le mot « élection ». Parce que les deux êtres divins ont été impliqués dans votre appel. La vocation, c'est l'appel qui a été fait par le Père, hein, qui vous a attiré au Christ. Et l'élection, c'est le fait que le Christ vous a choisi. Il vous a élu. Parmi tous ceux à qui la vérité avait été présentée, vous avez décidé de mettre en pratique les choses qu'il vous a montrées. Et à cause de ça, vous avez été élu par le Christ, vous avez été choisi pour faire partie de son équipe, du petit troupeau maintenant. Et c'est pour ça qu'il dit ici, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, c'est-à-dire votre appel, et votre élection, le choix que le Christ a fait en ce qui vous concerne. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Ça ne veut pas dire que vous ne manquerez pas votre coup en cours de route. Mais ça veut dire que vous allez arriver un jour à être capable de ne plus broncher. C'est ça le sens ici. Parce qu'on n'est pas encore parfait. Mais il dit, il va vous amener vers la perfection. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel, la naissance dans la famille de Dieu, le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous sera largement accordé. Et dans les versets précédents, il vous dit, il vous montre comment faire, versets 5 à 7. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, qui vous a été donnée, qui m'a été donnée. La vertu, c'est la détermination ou la résolution de faire ce qui nous est demandé de faire. Il dit, à la foi qui vous a été donnée, de croire, non pas seulement de croire en Dieu, mais de croire Dieu, ce qu'il vous dit. Il dit, à cette foi-là, ajoutez la détermination. Et après ça, ajoutez la connaissance. Développez la connaissance de Dieu davantage, par l'étude, par la prière, par le jeûne, pour être proche de Dieu. Et plus on est proche de quelqu'un, plus on apprend à connaître la personne. Moi, ça fait plus de 50 ans que je suis marié. Puis je commence à comprendre mon épouse un peu plus, là. Il n'est pas fini. J'ai encore du chemin à faire. Le premier 50 ans, disons que c'est un point de départ, là. Mais c'est un bon point de départ. Mais c'est pour vous dire, j'apprends encore des choses. Alors, la connaissance vient avec le fait de marcher avec la personne, de passer du temps avec, de voir ses réactions, d'échanger. C'est exactement la même chose sur le plan spirituel. À la connaissance, la maîtrise de soi. Et là, c'est des efforts qu'on a à faire pour se contrôler avec l'aide de Dieu. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. Et ainsi de suite. Alors ça, c'est le comment. rendre plus solide notre appel et le fait que le Christ nous ait choisis pour être capable de continuer vers le but. Donc, une relation personnelle avec notre Père, puis une relation personnelle avec le plus vieux de la famille, avec notre grand frère. Reportez-vous à Jean, chapitre 10, s'il vous plaît. Jean, chapitre 10. On va voir ici une déclaration encourageante de Jésus-Christ. Pour ceux qui l'ont choisi, parce que c'est lui qui a procédé à l'élection. Là. Jean 10, versets 27 à 30. Mes brebis entendent ma voix. Pour entendre la voix de quelqu'un, il faut être proche. Si on est proche du Christ, parce qu'on étudie sa parole chaque jour, parce qu'on prie Dieu, parce qu'on lui parle, on entend sa voix. Et quand viendra le temps ou le moment où nous devrons entendre des choses plus précises de sa part pour savoir quoi faire, si nous sommes proches, nous entendrons sa voix. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Je suis en train de leur donner la vie éternelle. Je leur ai donné un dépôt de la vie éternelle. Et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Verset 29, mon Père qui me les a donnés, mais oui, c'est le Père qui nous a attirés au Christ. Et c'est lui qui nous a élus. Il dit, mon Père qui m'a donné ces brebis-là est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Nous faisons la même œuvre et chacun des appelés, des choisis, sont l'ouvrage de nos mains. C'est ce qu'il mentionne ici. Mais là, je vais plus loin. Parce que lorsqu'il dit ici que personne ne peut ravir de sa main ce qu'il appelle, là, il parle de son rôle à lui et du rôle de son Père. C'est que eux ne nous laisseront jamais tomber. De leur côté, c'est assuré. Il n'y a personne dans ce sens-là qui peut les empêcher de nous aider jusqu'au bout. Il y a juste une personne qui peut le faire. C'est moi. Et c'est vous. Si je me détourne, si je me laisse ravir de leurs mains. Mais eux disent que c'est comme si c'était fait. Alors, si moi je suis fidèle, eux ont toute la puissance nécessaire pour être fidèles jusqu'au bout et pour nous amener à terme. Comprenez-vous pourquoi il dit ici, il n'y a personne qui peut les ravir de ma main. Il n'y a pas un autre être humain. Il n'y a même pas Satan l'adversaire. Si je reste fidèle, si je fais ce que j'ai à faire, si je reste proche, si je continue à travailler pour changer, et si je demande son aide. Autrement dit, de leur part, de la part du Père et de la part de Jésus, c'est une garantie absolue de succès pour chacun de nous, de leur part à eux, si nous persévérons à faire sa volonté, à entretenir ou à garder actifs et solides nos liens avec eux chaque jour. Chaque jour. Allez à psaume 34, s'il vous plaît. Psaume chapitre 34. Formidable. Et ça, ça décrit la démarche de ceux qui veulent être fidèles. Regardez ce qui se passe. Psaume 34, versets 5 à 7. J'ai cherché l'Éternel. Et il m'a répondu. Et je pourrais vous donner de nombreux exemples de gens qui ont cherché l'Éternel de tout cœur et qui ont reçu les réponses de Dieu, parce que Dieu est fidèle. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie. Pourquoi? Parce que même si le problème demeure plus longtemps, on sait que lui a la solution que nous n'avons pas. le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, et nous avons été à différentes périodes ou à différents moments très malheureux, très inquiets, très insécures, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Depuis le début du sermon, je vous dis que l'Éternel est soucieux de chacun des moments de votre vie. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses, de différentes façons. Des fois en changeant la situation ou parfois en changeant le cœur de la personne, en donnant le courage qu'il faut. Toutes sortes de situations comme ça. Verset 20. Le malheur atteint souvent le juste. Le sens original de ça ici dans le texte, c'est « Nombreuses sont les afflictions des justes ». Mais oui, on vit dans ce monde-là qui est tout à l'envers, avec plein de problèmes, et on a nos problèmes personnels, nos difficultés. Donc, « Nombreuses sont les afflictions du juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, à sa façon, au moment précis. » Alors, voyez-vous, je reviens là-dessus. On voit avec tout ça que Dieu, c'est un papa attentif. À chaque journée, puis à chaque événement de nos journées. Chaque événement, chaque instant de la vie de chacun de ses appelés, qui sont ses enfants, qui lui demandent son aide. Demandez et vous recevrez. Comprenez-vous, avec ces versets-là, comment on voit clairement que pour lui, ses appelés sont tellement précieux. Tellement précieux. Je vais plus loin. Ces appelés sont tellement précieux qu'on voit dans la Bible que dans les tout derniers temps avant le retour de Jésus-Christ, il va mettre un terme à la grande détresse. Pourquoi? Parce que vous irez voir dans Marc 13, verset 19-20. Marc 13, 19-20. Notez. Je pense que je vais y aller. Ça vaut la peine. Marc 13. Marc 13, 19-20. Parce que ça montre à quel point Dieu est attaché à ceux avec qui il travaille maintenant pour préparer une équipe pour changer le monde. Marc chapitre 13, versets 19 et 20. Il parle ici de la grande détresse qui vient bientôt. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde. Les pires catastrophes jamais vécues que Dieu a créées jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. C'est dur à imaginer quand on regarde, par exemple, ce qui se passe en Ukraine et à bien des égards dans d'autres pays par toutes sortes de situations catastrophiques, de sécheresse et de tout ce que vous voulez. Il dit, à ce moment-là, ça va être pire que ça a jamais été, que ça s'est jamais produit jusqu'à présent. Et regardez le verset 20. Et si le Seigneur n'avait abrégé ses jours, personne ne serait sauvé. Donc, si Dieu laissait aller les choses, il n'y aurait plus un être humain vivant sur la planète Terre à ce moment-là. Mais il les a abrégés. C'est-à-dire que la décision est déjà prise, que Dieu va mettre un terme à cette folie humaine avant qu'il ne reste plus personne. Et c'est ça qui va permettre à un petit nombre de survivre à ce moment-là. Mais il les a abrégés. Et regardez la raison ici. À cause des élus qu'il a choisis. Depuis le début du sermon, je vous parle de l'importance que vous avez aux yeux de Dieu. Pas parce que vous êtes ou parce que je suis, mais parce qu'il veut que nous devenions. Une telle importance qu'au moment de la toute fin, avant que l'humanité se détruise totalement, à cause de ces élus fidèles, il va intervenir, mettre un frein à cette folie humaine qui détruirait toute la planète. Reportez-vous à 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, maintenant, chapitre 2, s'il vous plaît. D'ici là, on a des choses à faire. Son ouvrage spirituel en nous doit se solidifier et s'affermir, comme on a vu tantôt. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, on va commencer à lire au verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi. Dès le commencement, pour le salut. Ça, c'est notre but. Par la sanctification d'esprit, par le changement de notre cœur, de notre esprit, et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé, par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce à quoi il nous appelle. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, voyez-vous, il travaille toujours en harmonie, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Et c'est précieux à ses yeux. C'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous affermit, mais si on lui demande, et si on va dans le même sens, on doit participer, autrement dit, à cette opération. Reportez-vous à Éphésiens chapitre 6, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 6, on a des informations encourageantes en rapport avec le message que je vous donne aujourd'hui. On doit collaborer avec le Christ et avec son Père. Éphésiens 6, le verset 10. Au reste, frères, il revient encore là-dessus, regardez, fortifiez-vous dans le Seigneur. On ne peut pas juste croire ce qu'on croit, changer quelques petites choses, puis se laisser porter dans le temps comme si ça allait arriver automatiquement le restant. Pas du tout. Il faut affermir notre cheminement, notre conversion. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Mais vous, c'est sur sa force qu'on doit compter. Et ça aussi, on l'oublie souvent. Souvent, on arrive face à un problème ou à une difficulté ou à quelque chose à vaincre et on travaille tout seul pour le faire. Au lieu de commencer par aller devant le trône de l'univers et de demander son aide. Après, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que lui va accentuer, et il a déjà commencé, il va accentuer ses efforts pour nous détourner, pour nous décourager, pour nous amener à s'intéresser à toutes sortes de choses parfois qui n'ont aucune importance réelle. Au lieu de rester fixé sur les choses que nous avons à faire pour être prêts quand les grands événements vont arriver. Ce ne sera pas le moment de se préparer à ce moment-là. Il faudra être déjà prêt. Ce que nous avons à faire maintenant. Et après, vous regardez, il donne plusieurs choses qu'on doit faire, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Ici, c'est des noms donnés à certains groupes de démons. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes, dans l'atmosphère. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et les jours qui sont devant nous sont mauvais. Ils sont déjà mauvais, mais ils le seront plus. Et il faudra avoir nos cœurs sur l'essentiel, sur les vraies priorités. Il y a des choses qu'on devra laisser de côté en cours de route. Il y a des choses qu'on doit encore changer pour garder notre cœur centré sur les choses de Dieu, pour ne pas se laisser diluer par tout ce que la société a à offrir comme distraction autour, pour nous amener à penser à autre chose et à être dilués dans nos façons de faire. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et c'est formidable. Il y a des gens ici, j'en parlais tantôt, il y a des gens ici qui sont à l'Église depuis 50 ans. Ils ont résisté jusqu'à maintenant. Et c'est bon. D'autres sont plus jeunes dans la foi. Dieu nous donne la même aide pour aller au bout. Le dernier arrivé, qui n'est pas encore baptisé, qui le sera plus tard, comme celui qui est dans l'Église depuis 50 ans et qui a été baptisé il y a 45 ans. C'est la même chose. Dieu va pourvoir aux besoins de chacun pour accomplir son œuvre. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et c'est pour ça qu'il faut approfondir la Bible chaque jour. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez en pratique ce que Dieu vous montre. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Alors, il faut être zélé pour l'œuvre, pour soutenir l'œuvre, par nos prières, par l'exemple autour, par nos dîmes, nos offrandes. Verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Et ça prend de la foi pour être capable d'avancer dans un monde qui est complètement contraire aux façons de Dieu et maintenir le cap avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Rêvez à ce qui s'en vient. Et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ça, c'est rester en contact avec le Père et rester en contact avec notre grand frère. Ne doutez jamais de l'amour de Dieu pour vous personnellement. Ne doutez jamais de sa puissance infinie, de sa détermination, je dirais, absolue, de vous donner la victoire. Pour lui, c'est classé. Si vous persévérez et si vous travaillez à rester fidèle. Remettez votre vie, remettons notre vie entre ses mains et tous les problèmes qu'on rencontre et qu'on va rencontrer avec confiance. Il ne faut pas faire l'erreur, par exemple, je me rappelle, M. Appartient avait déjà donné ce phénomène-là, il ne faut pas faire l'erreur d'aller devant Dieu, de lui remettre nos problèmes et de repartir en agissant comme si on n'avait pas remis nos problèmes entre les mains de Dieu. Attendre les solutions que nous avons en tête. Vous savez, quand on a un problème, des fois, on voit une façon de le régler. Et c'est seulement cette façon-là qu'on imagine. Mais laissons à Dieu le choix. Autrement dit, quand on remet un problème entre ses mains, laissons-le entre ses mains. Disons-lui merci de ce qu'il va faire. Faisons ce que nous avons à faire et lui va agir en temps et lieu. Il ne faut pas lui remettre nos problèmes, autrement dit, puis repartir avec. Comme si on n'avait pas remis dans les mains de l'être le plus puissant du monde les difficultés qu'on a. On non plus lui remettre nos problèmes puis nous laisser décourager en gardant les yeux sur les problèmes ou sur nos culpabilités. Alors que si on a demandé pardon à Dieu, il nous a lavé, il nous a pardonné, ça a été enlevé, ça a été terminé. Vous n'êtes pas appelé par hasard. Et il y a un chemin à suivre qui est tellement encourageant avec l'aide de Dieu. Vous avez été appelé par un choix du gouverneur de l'univers qui vous promet à tellement d'endroits dans sa parole qu'il ne vous laissera jamais tomber et qu'il va vous donner tout ce dont vous avez besoin pour arriver au but. En fait, Dieu a vu qu'avec son aide et qu'avec son soutien, vous pouvez réussir, quelle que soit votre situation et quelles que soient les circonstances présentes ou les circonstances à venir. C'est important que je le résume de cette façon-là. En terminant, j'aimerais vous poser une question. Je pense que vous allez être capable d'y répondre avec le sermon que je vous ai donné. À quoi est-ce que Dieu pense en ce moment? Bonne question. À quoi est-ce que Dieu pense au moment où on est ici à l'Assemblée de Saba? Sur quoi est-ce que Dieu se concentre? Bien sûr, il sait tout ce qui se passe dans l'univers. Il est omniscient. Mais sur quoi son attention est-elle centrée? Sur la réalisation de son grand but, de se développer une petite famille royale qui va travailler bientôt sous le Christ, à guérir les nations et à bâtir une société totalement nouvelle. À se bâtir une famille spirituelle éternelle. Donc, si vous êtes un appelé, à qui est-ce que Dieu pense le plus aujourd'hui? Il pense à vous. C'est évident quand on regarde les textes. Et il se concentre sur vous. Personnellement, allez à 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Voyez sa promesse enthousiasmante. si vous persévérez, malgré vos difficultés. Promesse extraordinaire, 1 Pierre chapitre 5 et le verset 10. Le Dieu de toute grâce, c'est lui qui donne les choses, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, c'est lui qui vous a attiré au Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, et on sait que nous souffrons, nous on trouve que c'est pas un peu de temps là, on trouve que ça fait longtemps, mais il dit après que vous aurez souffert un peu de temps, regardez ce qu'il dit, lui vous perfectionnera lui-même. Si je suis en train de faire les efforts dans ce sens-là, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Un jour, nous serons inébranlables, capables de ne jamais manquer notre coup, jamais pécher, toujours comprendre qu'est-ce qui se passe, toujours savoir comment vraiment aider d'autres personnes. À lui, soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est intéressant, je vais plus loin ici avant de terminer. C'est tellement vrai ce que je viens de vous dire, que c'est lui qui va nous affermir, que c'est lui qui va nous rendre parfaits si on fait ce qu'on a à faire, nous, en cours de route, c'est qu'il parle déjà de vous au passé. Il parle de vous au passé. Reportez-vous à Apocalypse chapitre 5. Il parle déjà de vous au passé comme si les choses étaient déjà réalisées. Comme si vous aviez réussi. Comme si vous aviez atteint le grand but. Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux, les appelés, les choisis. Tu as fait d'eux un royaume, une famille gouvernante, des rois et des sacrificateurs, des enseignants pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Pourquoi il met le verbe au passé, tu as fait d'eux? Parce que pour lui, c'est comme si c'était réglé. Ça dépend uniquement de vous et de moi personnellement dans chacun des cas. Mais pour lui, le produit fini est non seulement possible, mais c'est comme si c'était fait. Alors comprenez-vous que la balle est dans notre camp totalement. Mais on n'est pas seul. On a toute l'aide voulue à notre disposition. Toute la puissance de l'univers est présentement mobilisée pour vous aider en tout temps et en toute chose à atteindre le grand but de la vie éternelle. Vous, personnellement, êtes l'ouvrage de ses mains.